Le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le Davos du désert qui s'ouvre à Riyad aujourd'hui était censé être la vitrine d'une Arabie Saoudite en voie de transformation. Sous l'impulsion de Mohamed Ben Salman, jeune prince présenté comme réformateur, ce matin, force est de constater qu'il n'en est rien. Les défections se sont succédées.
L'Arabie Saoudite, engagée dans la guerre au Yémen depuis 3 ans et demi, nous prendrons des nouvelles des humanitaires sur place.
Dans ce journal encore, nous irons au Brésil où des femmes se mobilisent contre le candidat de l'extrême droite à la présidentielle. À 5 jours du second tour, elles sont trop souvent victimes d'attaques verbales ou physiques.
Et puis, les députés terminent aujourd'hui l'examen du premier volet du projet de loi de finances 2019. La fiscalité verte a été l'un des gros sujets casse-tête, vous l'entendrez.
Le mot-clé a mobilisé déjà plus de 60 000 tweets, hashtag pas de vague, ou quand les enseignants manifestent sur Twitter. Cela donne un objet politique non identifié, nous dira Frédéric Seyss dans son billet politique après ce journal. Rien ne restera secret. À propos de la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, le président turc Erdogan promet des révélations. Il doit s'exprimer dans la matinée devant le Parlement turc à Ankara, s'exprimer sur cette crise déclenchée au sein de l'ambassade saoudienne d'Istanbul après la disparition de Khashoggi. Riyad, de son côté, évoque toujours une bagarre qui aurait mal tourné. Cela ne convainc pas l'Occident. Riyad qui perd même ses soutiens économiques un à un. Pour preuve, la conférence économique qui s'ouvre aujourd'hui dans la capitale saoudienne, le Davos du désert. Cette conférence est boudée de plus en plus par des investisseurs. Dernier en date, le français EDF et l'allemand Siemens. La plupart des invités se désistent, Aurélien Colli.
L'Arabie Saoudite aura bien tenté de menacer ses partenaires de mesures de rétorsion. Le Davos du désert tourne au mirage pour le prince héritier, avec une liste sans fin de désistements. Patron des plus grandes banques, responsable du FMI, de la Banque mondiale, ministre ou PDG de multinationales, dans les services, les nouvelles technologies, l'industrie et bien sûr dans les médias, CNN, New York Times, The Economist, aucun de leurs journalistes n'animera finalement les tables rondes et autres débats censés montrer la modernisation de l'Arabie Saoudite. Plus de projecteurs, plus de personnalités. Alors il y a une chance que le forum soit annulé ou au moins réduit au minimum, estimé encore hier un fin connaisseur de l'Arabie Saoudite, en soulignant que jamais dans l'histoire du royaume, un prince héritier n'avait été aussi affaibli. Affaibli pour s'être aliéné des pans entiers de la société saoudienne, à coups d'arrestation des oulémas wahhabites radicaux, mais aussi des activistes des droits de l'homme, blogueurs, juristes, promoteurs des droits des femmes, à coups de condamnation à mort de militants de la minorité chiite, ou de menaces ou d'exécutions d'opposants en exil, à coups d'assignation à résidence encore de centaines d'hommes d'affaires pourtant libéraux ou d'humiliation de princes de la famille royale. Une famille royale déjà divisée par la nomination de ce prince héritier envers et contre toutes les règles en vigueur depuis la création du royaume par le roi Ibn Saoud. Il lui restait le soutien de l'Occident et la vitrine du forum international. Tout est en train de se fissurer, conclut la même source rompue au cercle du pouvoir saoudien.
Une vitrine qui se fend et des échanges qui se réduisent. Berlin invite aussi ses partenaires européens à suspendre leurs exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite. Mais la requête semble ardue car Riyad est précisément un bon client de l'industrie européenne de défense. Cécile de Kervas-Doué.
L'Arabie Saoudite est le deuxième plus gros importateur d'armes au monde. Et 60% de ses armes proviennent de l'Europe, rappelle l'Institut de recherche pour la paix de Stockholm. Troisième exportateur d'armes mondiales, la France est le deuxième pourvoyeur de l'Arabie Saoudite derrière les États-Unis. Et les Saoudiens sont les deuxièmes clients des Français avec plus d'1,5 milliard d'euros d'équipements livrés l'année dernière. Depuis 4 ans, le carnet de commandes saoudien à l'industrie d'armement français explose. Ces chiffres, et surtout le manque de transparence des armes livrées et de leur utilisation, ont créé une polémique au printemps dernier. De nombreuses ONG comme Amnesty International, s'appuyant sur une expertise de l'ONU, affirment que ces armes vendues par la France seraient responsables de crimes de guerre commis au Yémen par l'Arabie Saoudite sur des populations civiles. La France est pourtant soumise aux règles très strictes du traité de commerce des armes qui interdit la vente d'armes dans des situations où elles pourraient porter atteinte aux droits humains. Fin juillet, plus de 90 députés français de tous bords politiques ont donc jugé que le rapport annuel du ministère de la Défense sur le sujet n'était pas assez précis. Ils réclament depuis plus d'informations, plus de transparence. En attendant, l'Arabie Saoudite s'apprête à investir et à fabriquer elle-même ses armes pour être moins dépendante des équipementiers européens.
Alors Cécile évoquait à l'instant la question des armes vendues à Riyad et de leur devenir notamment au Yémen. Riyad est engagée depuis mars 2015 dans la guerre au Yémen et avec elle les armes qu'elle achète aux Occidentaux. De nombreuses ONG et associations le dénoncent. On estime aujourd'hui que plus de 20 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire au Yémen. Alors ce matin, pour ne pas oublier, nous avons fait le choix d'entendre le chef de projet de Médecins Sans Frontières qui a vu, qui a vécu ce conflit. Omar Ouaman l'a rencontré.
C'est un pays exsangue que Thierry Durand a quitté il y a quelques jours. Le chef de projet de Médecins Sans Frontières, une des rares ONG présentes au Yémen, a passé 4 mois dans la région d'Odeida, à l'ouest du pays, théâtre de violents combats.
Il n'y a plus un seul chirurgien, service hospitalier digne de ce nom. Il n'y a aucun soin obstétrico pour faire des césariennes, pour les urgences obstétricales, pour les femmes enceintes. C'est une catastrophe.
Et c'est pour venir en aide aux populations qu'MSF a ouvert en plein cœur de l'été un hôpital de campagne dans la ville de Moka, à mi-chemin entre Odeida et la grande capitale du Sud, Aden, un territoire piégé par les milices houthis soutenues par l'Iran.
Toute la zone a été minée et on a toutes les semaines des victimes d'explosions de mines sur des véhicules, des bus. Pour donner quelques chiffres du mois de septembre, on a eu plus de 650 personnes venant à la salle d'urgence et on a fait plus de 400 interventions chirurgicales. Avec un blocus, avec des structures d'État effondrées, une économie qui part en lambeaux, ça n'avance pas.
Et après plus de 3 ans et demi, l'Arabie Saoudite, à la tête de la coalition, s'est enlisée dans cette guerre dont aucune issue ne semble se profiler.
Et pour accompagner les mots, voici des chiffres encore. Ce matin, l'ONU estime que 14 millions de personnes pourraient être en situation de pré-famine dans les mois à venir au Yémen. 3 pays d'Amérique centrale ne bénéficient plus depuis hier d'aides américaines sur décision de Donald Trump. Il veut ainsi punir le Honduras, le Salvador et le Guatemala pour n'avoir, selon lui, rien fait pour stopper la marche de migrants. 7000 hommes, femmes et enfants honduriens pour la plupart remontent actuellement le Mexique sous une chaleur accablante dans l'espoir d'atteindre les États-Unis à 3000 km de là. Le président américain a par ailleurs mis en alerte l'armée et les gardes frontières. Facebook a fermé hier 68 pages et 43 comptes liés à un groupe brésilien, un groupe qui serait lié au favori du candidat, le favori d'extrême droite à la présidentielle, candidat Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro et ses proches qui sont accusés d'utiliser des fausses informations en nombre pour convaincre des électeurs. Face à eux, une fronde est en train de s'organiser via les brésiliennes, prises à partie, attaquées, violentée même depuis que Jair Bolsonaro est favori. Elle riposte sur les réseaux sociaux, elles aussi, Anne Vigna.
Elles sont désormais 4 millions à s'être réunies sur le groupe Facebook Les Femmes Unies contre Bolsonaro, sans compter les autres groupes, Les Femmes pour la Démocratie ou encore Les Femmes avec Haddad. Ces pages Facebook présentent des dossiers très complets sur Bolsonaro. Sa vie parlementaire, ses déclarations et les nombreuses fake news que son camp fait circuler. Ludmila Teixeira est la créatrice de ce groupe et elle en est devenue le visage après une vidéo postée fin septembre. Le regard bien droit, Ludmila réagit à l'attaque cybernétique dont elle vient de faire l'objet.
Malheureusement, nos profils Facebook ont été piratés. Mon profil a également été piraté. Ils veulent éliminer ma vie virtuelle. Ils ne veulent plus que je parle. Mais vous n'allez pas y arriver, car vous ne pourrez pas pirater les urnes. Nous allons nous battre avec force. Ou bien nous nous unissons maintenant pour lutter, ou nous ne pourrons que pleurer. Cette candidature est néfaste. On va redire tout ensemble, pas lui, dehors Bolsonaro.
Fora Bolsonaro.
En plus d'appeler à voter contre Bolsonaro, les femmes signalent tous les jours une agression, une menace ou une mesure de sécurité à suivre. De nombreuses femmes ont été agressées dans la rue pour porter l'autocollant de leur mouvement « Elle n'en pas lui ». Cette semaine, elle défend la journaliste du quotidien La Folia de São Paulo, menacée pour être l'auteur de l'enquête sur les fake news financées par des entreprises qui soutiennent Bolsonaro. Comme le disait Ludmila Teixeira dans son dernier poste, être journaliste ou féministe est désormais dangereux au Brésil.
Et être de gauche pourrait l'être aussi. Le candidat de l'extrême droite a tenu des propos incendiaires à l'égard de la gauche à quelques jours du second tour. Il a promis dimanche de nettoyer le pays des marginaux rouges, assurant que l'ancien président Lula allait pourrir en prison. Ce sont ses mots.
Vous écoutez les matins de France Culture. Il est 8h10, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les députés les Français ont voté le durcissement du malus automobile écologique.
Oui, dans la nuit, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, avec pour objectif d'encourager l'achat de véhicules dits propres. Une mesure prise au détriment du pouvoir d'achat des Français, répondent en chœur la droite et l'extrême droite. Mais cette mesure va dans la droite ligne de ce que prône depuis le début de l'examen du projet de loi de finances 2019, de ce que prône le gouvernement, à savoir une fiscalité verte, Catherine Pétillon.
Pour les particuliers, cela veut dire une hausse des prix de l'essence comme du chauffage au fioul. Or, cette évolution de la fiscalité vient s'ajouter à l'augmentation des prix du pétrole depuis quelques mois déjà. Comment feront les plus modestes ? Voilà ce qui a suscité de vifs débats dans l'hémicycle. Un certain nombre de députés se sont inquiétés de cette fiscalité verte au nom du pouvoir d'achat, en particulier pour les ruraux, ou encore sur le thème de l'écologie dite punitive. Les critiques se sont fait entendre à droite comme à gauche, mais aussi au sein même de la majorité, via Mathieu Orphelin et Bénédicte Perrol, nouvelle chef de file des députés En Marche à la Commission des Finances. Tous demandaient des dispositifs en faveur des plus modestes ou du moins des personnes les plus touchées par la hausse des prix de l'énergie. L'exécutif, par la voix de François de Rugy, a confirmé la hausse programmée de la fiscalité écologique, près de 15 milliards d'euros prélevés en plus sur l'ensemble du quinquennat Macron, mais a tenté de calmer les esprits en renforçant quelques-uns des dispositifs d'aide existants. La prime à la conversion, pour favoriser le remplacement des vieilles voitures polluantes, est étendue aux véhicules hybrides et électriques neufs, et même l'occasion pour les ménages non imposables. Et pour les près de 4 millions de Français qui se chauffent au fioul, la portée du CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique, est étendue à un certain nombre de travaux, ainsi qu'à l'installation ou l'enlèvement des chaudières. Des mesures saluées, mais jugées insuffisantes par un certain nombre de députés de l'opposition.
L'Assemblée doit voter aujourd'hui cette première partie du projet de loi de finances, à savoir le volet recettes. Un nouveau procès pour Georges Tron. Il s'ouvre aujourd'hui devant les assises de Bobigny. Et l'ancien secrétaire d'État est accusé aux côtés de Brigitte Gruel, son ancienne adjointe à la mairie de Draveil dans l'Essonne. Ils sont accusés de viol en réunion sur deux anciennes employées municipales. Tous deux clament leur innocence. Bruno Le Maire va défendre la taxation des géants du numérique devant le Parlement européen à Strasbourg cet après-midi. Le ministre des Finances et de l'Économie souhaite un accord à 28 d'ici la fin de l'année, mais l'Irlande et l'Allemagne rechignent encore à le signer. Alors les géants du net sont-ils tout puissants ? Peut-être bien encore, malgré la réglementation européenne adoptée il y a 5 mois, non pas sur les taxes qu'ils doivent payer, mais sur les données personnelles qu'ils doivent protéger. Cela s'appelle le RGPD. Emmanuel Macron en discutera avec le PDG d'Apple ce midi. Tim Cook sera à l'Élysée. État des lieux ce matin sur France Culture du nouvel règlement européen avec Maxime Tellier.
Le principal changement depuis le RGPD est dû à l'évolution du cadre juridique qui a rétabli un rapport de force en faveur du public. Le règlement général sur la protection des données oblige les sites à nous informer désormais sur l'usage qu'ils font de nos données. On a tous vu ces messages apparaissant sur les sites que nous consultons. Nous demandons notre consentement sur l'utilisation de nos données. Ce rapport de force, il s'appuie sur le montant des amendes qui a été largement revu à la hausse, plafonné autrefois à 150 000 euros en France, qui peuvent désormais atteindre jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Pour Google, ce serait 2,5 milliards de dollars. Et c'est aujourd'hui le risque bien réel encouru par les grandes plateformes hégémoniques du web. En France, une plainte collective avec 12 000 plaignants a été déposée ainsi par l'Association de défense des libertés, la Quadrature du Net, contre les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. On vient d'apprendre la semaine dernière, d'ailleurs, que la CNIL s'occupait d'instruire la plainte concernant Google, car les grandes plateformes sont accusées d'avoir en fait contourné le RGPD en faisant du chantage au service, en disant à l'utilisateur « si vous ne voulez plus que nous utilisions vos données, alors vous ne pouvez plus utiliser nos services ». C'est illégal, d'après les associations qui ont donc porté plainte et qui veulent en fait forcer les géants du net à changer leur modèle économique, qui repose aujourd'hui sur la connaissance de notre vie privée, de nos habitudes, des informations qui sont ensuite vendues à des publicitaires. S'agissant de ces pratiques-là, rien n'a encore vraiment changé.
Le RGPD, c'est forcément un coup. Voici un article à retrouver sur franceculture.fr. Après l'hégémonie des GAFAM, voici celle de la Chine, bien concrète, bien palpable. Celle-ci. Xi Jinping a inauguré cette nuit le plus long pont du monde, 55 km de pont autoroutier et de tunnels sous-marins entre la Chine continentale, Macao et Hong Kong. Pékin renforce ainsi son emprise sur l'ancienne colonie britannique. Et ce chantier pharaonique y a impliqué la construction d'une nouvelle gare où sont déployés des agents de sécurité de la Chine continentale. C'est la première fois depuis 1997 que les lois chinoises s'appliquent sur ce bout de territoire semi-autonome. Nous revenons en France pour la météo de ce mardi, un temps marqué par une grisaille matinale du Grand Est jusqu'au Poitou. Cette grisaille va se dissiper lentement pour laisser place à un beau soleil sous des températures fraîches encore, avec une minimale de 7 degrés à Verdun ce matin, 11 à Rennes, Lille, Paris, Strasbourg, 12 à Grenoble, 13 à Bordeaux, 20 degrés à Nice et sur la Corse.
Merci Clara Lecoq-Réal, il est 8h15 sur France Culture.